Info à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Nouakchott, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal politique en Mauritanie. Ouverture officielle ce vendredi de la campagne pour l'élection présidentielle du 22 juin dans le pays, à 2 semaines du scrutin. Depuis minuit heure locale, les 6 candidats déclarés à la succession du président Mohamed Ould Abdelaziz ont le droit de tenir des meetings et on s'attend à ce qu'ils sillonnent le pays jusqu'à la fin de la campagne le 20 juin, à 2 jours du premier tour du scrutin. Afrique de l'Ouest toujours, au Bénin, l'ancien président Thomas Boniayi est censé rencontrer un juge dans un peu plus de 3 heures aujourd'hui à son domicile à Cotonou après avoir reçu hier une convocation au tribunal. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Thomas Boniayi a reçu une lettre signée du juge Aubert Kodjo qui lui signifie sa convocation. En raison de votre qualité d'ancien président de la République, dans l'intérêt de l'administration de la justice, j'effectuerai le vendredi 7 juin à 15h30 un transport à votre domicile en vue de vous entendre dans la dite procédure, précise le juge. Boniayi, qui a dirigé le Bénin d'avril 2006 à avril 2016, n'a plus été vu en public depuis le 1er mai, après sa déclaration demandant l'arrêt du processus électoral. Le Bénin a tenu le 28 avril des législatives pour renouveler les 83 sièges du Parlement. L'opposition n'a pas participé à ce scrutin. Monsieur Boni avait appelé la population à se soulever, arguant que les députés élus entreraient au Parlement sur les corps des manifestants s'il le fallait. Depuis, l'ancien chef de l'État est assigné à résidence et son domicile est entouré depuis plus d'un mois par les forces de l'ordre.
Sénégal, le géant pétrolier BP, British Petroleum, a démenti priver les autorités sénégalaises de la part du lion en ce qui concerne les futurs revenus de ses ressources en hydrocarbures. Et ce, après avoir été mis en cause par la BBC dans un reportage qui épingle notamment un frère du président sénégalais Macky Sall. Les précisions d'Irénée Herman Ungbo.
Le groupe BP ne confirme pas le montant du contrat confidentiel, 250 millions de dollars assorti de redevances de quelque 10 milliards de dollars sur 40 ans. Mais il refute vigoureusement cette représentation trompeuse et fallacieuse de ses activités au Sénégal, a déclaré hier le numéro 1 de BP au Sénégal, Jérôme Moussari. Le groupe ne reconnaît pas non plus le document produit par la BBC, présentant ce chiffre tellement faux et exagéré qu'il en est complètement fantaisiste. Il estime par ailleurs que le document a été produit par une autre partie. Même dans un scénario avec les conditions économiques et techniques très favorables, les royalties qui pourraient être payées par BP à Timis Corporation n'atteindraient même pas 1% de ce que la République du Sénégal pourrait recevoir, a-t-il indiqué. Toutes les royalties qui pourraient être payées à Timis Corporation seront exclusivement déduites des fonds de BP. Ces royalties n'auront donc aucun impact sur les revenus de la République du Sénégal ou ceux de ses partenaires, a souligné le patron de BP Sénégal.
Contestation au Soudan. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed est arrivé aujourd'hui à Khartoum pour tenter une médiation entre les militaires au pouvoir et les chefs de la contestation après une brutale répression des manifestants soudanais qui a suscité des condamnations à l'échelle internationale. Au programme du leader éthiopien, des consultations avec les dirigeants du conseil militaire qui a pris le pouvoir après le renversement du président Omar al-Bashir, avant une réunion avec des leaders de la contestation. Le mouvement de contestation accuse les RSF, les forces de soutien rapide, d'être responsables de la répression sanglante qui a coûté la vie à une centaine de manifestants et qui est responsable du climat de peur qui s'est emparé de Khartoum. Plus de détails avec Eric Manirakiza.
Depuis la dispersion brutale lundi du sit-in devant le QG de l'armée à Khartoum, les redoutées forces de soutien rapide, souvent jeunes, en uniforme beige et lourdement armées, déambulent dans les rues de la capitale ou circulent à bord de pick-up. Le numéro 2 du conseil militaire au pouvoir depuis la chute d'Omar el-Béchir commande cette puissante force paramilitaire. Mohamed Hamdan Daglo, surnommé Hemeti, a dirigé la milice Janjaweed parmi les tribus arabes chargées de la politique de la terre brûlée au Darfour et accusées de multiples exactions qui ont valu à Omar el-Béchir de mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, puis pour génocide. Les forces de Remeiti sont accusées d'avoir étouffé lundi dans l'Ossan le mouvement de protestation pacifique qui ébranle le régime depuis décembre 2018. Depuis avril, Remeiti est devenu incontournable sur les télévisions soudanaises, tantôt pour s'attirer la sympathie en rendant visite sur son lit d'hôpital à un manifestant blessé, tantôt pour affirmer qu'il ne permettra pas le chaos.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique centrale, République démocratique du Congo, le FMI, le Fonds monétaire international, a publié mardi pour la première fois en 5 ans un rapport sur la situation économique en RDC. La croissance est quelque peu en baisse, mais le plus vaste pays d'Afrique subsaharienne reste sur la bonne voie. Eric Ambago de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, a recueilli la réaction du vice-ministre congolais des Finances, Jean-François Mukuna.
Le FMI reconnaît que depuis 2015, il y a eu des variations baissières. Et avec l'année 2018 que nous avons pris en charge nous-mêmes financement des élections et que nous sommes actuellement en situation haussière. Mais ça reste fragile parce que la RDC, comme vous le savez tous, ils ont bien noté que nous dépendons beaucoup des recettes minières. Avec quelques soubresauts, comme vous connaissez les codes miniers révisités, ça pose quelques petits soucis par rapport à ceux qui investissent. Néanmoins, de là, ils reconnaissent que les efforts sont fournis d'une manière considérable, qu'il faudrait sur le plan social maîtriser la masse salariale et en même temps avoir des objectifs précis pour résorber la pauvreté. Ce qui veut dire quoi en plus clair? Les efforts sont reconnus, les recommandations sont faites, maintenant c'est à la République démocratique du Congo d'analyser et de faire un choix. Mais l'idée principale c'est rentrer en programme avec le FMI. Je crois que de ce côté-là c'est pas négatif parce que nous appelons justement avec la nouvelle politique du nouveau chef de l'État qui vient d'accéder au pouvoir, une reprise avec les institutions internationales, tous les aspects financiers. Mais en filigrane quand même cette souveraineté nationale qui nous est chère ne nous échappe pas non plus.
Mais la croissance en 2019 sera un peu moins que 2015, 4% un peu plus à peu près. Est-ce que cela n'est pas inquiétant?
Non, je ne pense pas que cela soit inquiétant. Vous savez, dans tout ce qui est prévision économique, il y a ce qu'on appelle le scénario optimiste, réaliste et pessimiste. Le FMI, comme c'est quelque chose qui apporte de l'argent, c'est normal qu'il soit toujours sur les réserves. Mais les marges de manœuvre sont importantes. Le FMI le reconnaît, il y a des marges. À nous maintenant d'amorcer les réformes conséquentes pour que ces marges se transforment réellement en taux de croissance. Et en plus, l'incertitude internationale, qui peut garantir qu'un taux annoncé aujourd'hui sera le même dans 6 mois?
Est-ce qu'aujourd'hui la reprise d'un programme avec le FMI ne peut pas avoir un effet négatif, comme quoi le FMI, voulant aider le Congo malade, peut également aggraver la maladie pour que ce Congo demeure sous sa dépendance?
C'est un risque, mais comme vous savez, dans toute politique, il y a part du risque. Si vous n'assumez pas les risques, c'est que vous n'êtes pas politique. Mais comme nous avons déjà assaini les bases de nos finances publiques, je crois que nous pouvons amortir facilement le choc, tout en ayant une gestion prudente et des investissements à la hauteur des enjeux. Comme vous le savez aussi, il y a des investissements qui peuvent être productifs, d'autres qui endetteraient le pays d'une manière négative, qui vont impacter d'une manière négative. Donc c'est aux dirigeants de voir où ils peuvent mettre le curseur pour que ça aille mieux.
Jean-François Mukuna, vice-ministre congolais des finances à Kinshasa en RDC. Et pour terminer, une enquête multinationale sur le sabotage le 12 mai de 4 pétroliers a conclu à la responsabilité probable d'un acteur étatique, mais aucune preuve ne permet à ce stade de dire qu'il s'agit de l'Iran. C'est ce qu'ont indiqué ce jeudi les Émirats Arabes Unis. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Cette enquête a été menée par les Émirats avec le concours de l'Arabie Saoudite et de la Norvège. Ses résultats préliminaires ont été présentés dans la journée aux membres du Conseil de sécurité de l'ONU lors d'une réunion informelle organisée par la mission émirati auprès des Nations Unies. Bien que les investigations soient toujours en cours, il y a de fortes indications que les 4 attaques sont intervenues dans le cadre d'une opération sophistiquée et coordonnée menée par un acteur doté de fortes capacités opérationnelles, vraisemblablement un acteur étatique, souligne un communiqué conjoint des Émirats, de l'Arabie et de la Norvège. Les États-Unis ont accusé l'Iran d'être très vraisemblablement derrière ces sabotages, au moyen présumé de mines iraniennes et avec l'objectif, selon eux, de faire monter les prix du pétrole, alors que Washington tente d'empêcher avec des sanctions Téhéran d'exporter son pétrole. L'Iran a rejeté toute implication. Les 4 navires, 2 bateaux battant pavillon saoudien, 1 sous-pavillon norvégien et 1 sous-pavillon émirati ont été endommagés par des explosions survenues dans les eaux territoriales émiraties près du port de Fujairah.
Restez à l'écoute de VOA Afrique.